Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une cinquième émission sur l'anthropologie chrétienne, découvrir qui l'on est pour savoir ce pourquoi l'on est fait. C'est le désir qui habite le cœur de chacun. L'anthropologie chrétienne prend en compte la dimension transcendantale de tout homme, ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine, qui est d'être créée à l'image de Dieu. Nous avons compris le mois dernier ce qu'est précisément la vocation de la femme. Nous regardons aujourd'hui quels sont les enjeux de la femme dans son corps, dans son cœur et dans sa psychologie. Bonjour Camille de Certaines.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, diplômée de l'EM Lyon. Vous terminez actuellement un master en théologie du corps, en plus d'études en philosophie. Avec votre mari, vous accompagnez des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Et vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching à destination des lycéennes intitulé Mademoiselle Potentielle. Et nous allons voir justement pendant cette émission qu'il y a un certain nombre de points qui rentrent dans ce cadre de ce parcours de lycée.
Oui. Ouais. Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que vous nous avez dit le mois dernier à propos de la vocation de la femme ?
Oui, la dernière fois, donc nous avons parlé de la belle vocation de la femme, ce que Edith Stein appelle la mission spécifique de la femme. Voilà, vocation parfois c'est pas très précis, donc elle parle de mission spécifique. En fait, il s'agit de comprendre comment la femme se donne, comment elle se donne à son époux si elle est mariée, à sa famille, à ses enfants, comment elle se donne à ses amis, au monde, comment elle se donne dans son travail, en tant que femme, en fait vraiment comme femme. Et du coup, par là, comment elle déploie tout son être de femme en se donnant. Et donc cet être de femme, eh bien, il a des forces, il a aussi des enjeux dont il est important de prendre conscience. Parce que ces forces sont des richesses, ce sont des atouts, ce sont des dons particuliers que la femme reçoit. Mais en fait, ces dons, elle peut bien les utiliser ou voilà, elle peut parfois mal les utiliser parce qu'elle est libre. Parce que voilà, nous sommes vraiment créés des êtres libres, donnés à nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'est ça que j'aimerais que nous abordions aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai repris là quelques enjeux qui me semblent importants. Il y en a certainement d'autres. Voilà, on ne peut pas tous les aborder, mais en tout cas, comme vous l'avez rappelé, la personne humaine, c'est une unité tête, cœur et corps. Et donc, les enjeux, ils concerneront son cœur, sa psychologie, sa vie spirituelle et aussi son corps, sa physiologie.
Oui, c'est tout un.
Oui.
Qu'est-ce que Dieu a donné à la femme pour éveiller dans l'autre ses capacités à aimer ?
On peut dire que l'essence de la femme, c'est la beauté. La femme, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu, en toute modestie. pourquoi l'homme a fait la femme si belle ? Eh bien, c'est pour l'homme. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas beau, attention, hein, il y a une connaturalité, on a dit plusieurs fois, on a dit et redit, il y a une même nature humaine chez l'homme et chez la femme. Mais chez la femme, il y a vraiment un éclat particulier de la beauté. On peut dire que l'homme, un peu, c'est la force de Dieu et la femme, c'est la beauté de Dieu. La beauté, c'est vraiment un des attributs de Dieu. Mais qui est donné particulièrement à la femme pour le faire rayonner.
Et vous dites, Camille de Certaines, que la beauté vient de Dieu. C'est pas forcément ce que nous laissent entendre les influenceuses sur les réseaux sociaux.
Oui, ça c'est un vaste sujet, les réseaux sociaux et toute la question des influenceuses. Et malheureusement, on voit que là, la beauté, elle est un peu dénaturée.
Elle est artificielle.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, les influenceuses, on ne peut pas dire qu'elles laissent transparaître une beauté qui vient de Dieu. Alors, peut-être certaines, hein, évidemment. On ne va pas faire de généralité, mais on voit que souvent, une influenceuse, elle présente son maquillage, ses tenues, ce qui brille, ses bijoux, voilà. Et en fait, ça, c'est des choses qui ramènent à elles. Elles sont hyper retouchées. Souvent, c'est issu de la télé-réalité. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose un peu factice là-dedans, d'image qu'on doit mettre en avant, qu'on doit un peu fabriquer, comme vous le disiez. Voilà, c'est un peu superficiel, c'est retouché. Et finalement, voilà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ? Et on voit aussi que finalement, c'est tourné vers soi. C'est elles qu'elles veulent mettre en avant. C'est leur propre personne, en fait, qu'elles... Voilà, qu'elles veulent exposer, elles ne veulent pas laisser paraître qu'il y a quelque chose qui vient avant elles, qui est plus grand qu'elles, en fait. Elles n'élèvent pas forcément. Or, voilà, c'est un peu... Il y a vraiment un enjeu, hein, parce qu'elles sont suivies, ces jeunes femmes-là, elles sont suivies par des millions de personnes. Et donc, les jeunes femmes qui les suivent, eh ben, elles sont touchées par ça, elles sont attirées par ça, parce que ce qui brille, ça attire. Mais en fait,
il y a un effet de mimétisme aussi.
Il y a un effet de mimétisme. Et puis, du coup, en fait, sans se rendre compte, on manque le fait que la beauté est quelque chose de beaucoup plus large, en fait. Et puis là-dedans, il y a aussi vraiment l'enjeu de la domination par la séduction. En fait, ces femmes, elles sont très séduisantes, elles sont très séductrices. Et donc, elles apprennent à être séduisantes, elles apprennent à être séductrices. Or, la séduction, étymologiquement, c'est conduire à soi. Donc, c'est vraiment... Il y a une forme un peu d'idolatrie du soi, du moi.
De narcissisme.
Voilà, de narcissisme. Et on voit bien que ce n'est pas une beauté qui conduit à plus grand que soi, qui conduit à Dieu. C'est vraiment une beauté qui est tournée vers soi. Et c'est, du coup, c'est un peu stérile. C'est dommage.
Oui, c'est ça. Qu'entendez-vous par beauté féminine ?
Alors, la beauté, c'est un vaste sujet, la beauté. Ouais. Évidemment, tout de suite, quand on pense beauté féminine, on va penser à la silhouette, au visage, aux yeux. D'ailleurs, la silhouette féminine, elle est très arrondie, avec les formes féminines, alors que l'homme, il a une silhouette qui est beaucoup plus carrée, beaucoup plus angulaire. Donc, c'est pas pour rien, en fait, que la silhouette féminine, elle est belle, elle est arrondie, on a toutes ces formes. Mais la beauté, c'est aussi le cœur, c'est aussi l'esprit, l'imagination. Voilà, Dieu a donné cette beauté à Ève et il la donne vraiment à chacune de nous. Et donc, toute femme a une beauté à dévoiler. Et c'est très amusant quand on pense à toutes les petites filles et nous-mêmes quand on était petites filles, on voit qu'on avait besoin de lire l'admiration dans les yeux de notre papa. Et c'est pas pour rien que quand on est petite fille, on se déguise en princesse, qu'on met des colliers, on met plein de choses qui brillent, on met des talons. Voilà, on a besoin de se sentir belle.
Voilà, dans le regard.
Dans le regard de l'homme en face. Exactement. Mais voilà, cette beauté, elle n'est pas uniquement extérieure. Et donc finalement, notre mission, ça va être de dévoiler, de décliner, d'élargir vraiment cette beauté sous de multiples formes. Donc il y a évidemment la beauté physique, mais aussi la beauté du cœur, la beauté de l'âme. Parce que la beauté, elle ne vient pas de la régularité de nos traits, mais elle vient de la lumière intérieure qui va illuminer nos traits, en fait, de notre feu, de notre enthousiasme, de notre spontanéité, de notre sincérité. En fait, on voit que une femme qui a un regard clair, qui a un regard engagé, ça se sent. Et en fait, la grande figure de ça, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, elle était toute petite, toute ridée, vraiment un tout petit bout de bonne femme. Mais quelle paix intérieure, quelle cohérence, quel accord en elle-même avec la vie, quelle profondeur, quelle compassion, en fait, dans son regard. Et elle était tellement belle, cette femme.
Le regard est le miroir de l'âme.
Oui, complètement.
Donc, voilà, ça transparaissait bien, en tout cas, chez
c'est
elle.
Exactement
ça. Outre la beauté, quel autre enjeu y a-t-il pour l'équilibre de la femme ?
Alors, il y a un enjeu qui est très important et qui réside dans le juste amour de soi. Et en conséquence, la liberté, en fait, vis-à-vis du regard d'autrui et puis vis-à-vis du regard qu'on se porte sur soi. Ça se décline un peu de la beauté, en fait. Parce que pour être une bonne compagne, eh bien, il faut d'abord s'aimer soi-même. Finalement, c'est un peu le commandement que nous a donné Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais du coup, on peut un peu le retourner. On peut dire, de la façon dont tu vas t'aimer toi-même, tu vas pouvoir aimer les autres. Cet Augustin a cette très belle phrase. Il nous dit... Comment vous serait-il possible d'aimer le prochain en vérité si vous n'avez pas su vous aimer vous-même ? On voit bien quelqu'un qui s'accepte pas, qui a une défiance envers lui-même, qui est dur envers soi, il va avoir plus tendance à être aussi trop dur envers les autres, en fait. Voilà. Et finalement, le juste amour de soi, c'est le premier pas pour aimer les autres.
Et que veut dire bien s'aimer, Camille Certaine ?
Bien s'aimer, en fait, c'est s'accepter tel que l'on est et donc finalement terriblement imparfaite. Et c'est dur de dire ça.
Ah oui, c'est dur.
Mais c'est terrible, mais finalement, c'est peut-être très heureux. On pourrait dire heureusement imparfaite. Ce serait peut-être justement terrible d'être trop parfaite. Quel est le chemin ? Du coup, le chemin, c'est renoncer à notre image, renoncer à soi-même, renoncer à la soi-même telle qu'on rêverait d'être, en fait, à la personne idéale qu'on s'est construite, mais qu'on s'est construite dans nos désirs, dans notre imagination, parce que cette personne idéale, elle n'existe pas. Personne n'est parfait. On peut dire, à part la Sainte Vierge, il n'y a pas de femme parfaite. Mais donc, ça fait souffrir, parce que notre cœur est blessé et qu'on désire la perfection, peut-être notre orgueil désire la perfection. Et donc, il va falloir renoncer à cette perfection, qui est difficile pour la femme, qui, je pense, encore plus spécifiquement que l'homme, veut être parfaite. Et donc, voilà, bah, c'est assumer, assumer ses faiblesses, assumer ses frustrations, ses manques, accepter qu'il y a des parts d'ombre en nous, et du coup, intégrer une bonne image de soi. En fait, le juste amour de soi, c'est tout le chemin d'humilité. En fait, c'est vraiment l'essence de l'humilité. Ça veut dire se connaître, ni plus, ni moins. Ne pas s'idéaliser, ne pas non plus avoir une
se contenter
mauvaise...
de voilà de,
oui ou ne voir que ses défauts, vous voyez, avoir une mauvaise image de soi, je suis trop nulle, je suis trop ça, c'est pas non plus l'humilité, c'est aussi voilà reconnaître ses talents et en fait comment on peut le faire, on peut le faire en regardant Dieu et du coup en étant plus juste centré sur son petit nombril parce que voilà on se décentre pas de soi.
Est-ce que vous voulez dire que finalement bien s'aimer ça provient nécessairement de Dieu?
En fait, l'estime de soi, l'estime de moi, la bonne estime de moi, finalement, c'est la vraie estime et c'est celle que Dieu a pour moi. Et comment je la découvre, cette estime que Dieu a pour moi, je la découvre dans la prière, en fait, dans ma relation, dans mon cœur à cœur avec Dieu, dans ma vie intérieure. Qu'est-ce que c'est la prière, la vie intérieure? C'est vraiment... se laisser regarder, se laisser aimer par Dieu et accueillir ce regard d'amour de Dieu. Le prophète Isaïe nous dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Eh bien, il nous dit ça de la part de Dieu. Et finalement, c'est dans la prière, c'est dans la vie intérieure que je cultive, eh bien, je découvre, je prends conscience de cet amour de Dieu pour moi. Eh bien, c'est là où je vais pouvoir dépasser le regard de doute que je peux avoir pour moi. Et donc finalement parfois je doute, j'ai un sentiment d'infériorité ou de culpabilité voilà, et je vais chercher une solution concrète, une solution humaine qui va peut-être me décourager parce que je vais pas y arriver et puis finalement me rendre compte que Dieu m'aime bien au-delà de mon péché, bien au-delà de mes imperfections, c'est ça qui va me permettre en fait de les accepter, de réaliser que Dieu a envoyé son fils pour prendre sur lui pour nous libérer de nos péchés, nous donner cette liberté, eh bien, c'est ça, en fait, qui fait que je suis libre. C'est parce que Dieu m'aime que je suis libre. Souvent, vous voyez, on pense qu'on est estimable, qu'on est aimable quand on peut être admiré. C'est-à-dire que c'est parce que je fais quelque chose de bien, parce que je suis admirable, que du coup, je suis quelqu'un d'estimable, je suis quelqu'un de bien. En fait, c'est pas du tout ça. Et c'est pas ça que Dieu nous dit. C'est pas parce que je suis aimable que Dieu m'aime. C'est d'abord parce que Dieu m'aime, et il nous a aimé le premier, hein, évidemment, c'est parce qu'il m'a aimé le premier que je suis aimable, qui que je sois. Et en fait, c'est vraiment dans ce regard-là que je vais pouvoir m'aimer, et bien m'aimer, justement.
Et donc, ça veut dire que la femme doit faire un travail de vérité sur elle-même.
Oui, ouais, y a vraiment un travail... d'être en vérité, d'être dans ce chemin d'humilité et de reconnaître, voilà, comme on le disait, qu'on n'est pas parfaite. Donc, par exemple, de reconnaître qu'une femme, elle a une certaine fragilité physique et affective. On le sent toutes, hein, on a des variations subies ou on vit en tout cas des variations hormonales, on a des émotions qui sont très fluctuantes. La femme, souvent, elle a besoin de protection et il faut qu'elle l'exprime. Et c'est là, en fait, où intervient ce dont on a déjà beaucoup parlé, hein, mais on voit bien l'exemple de l'importance de l'homme, en fait, de la force protectrice et vraiment calme et ancrée de l'homme qui va aider la femme à cadrer la richesse de ses émotions qui peuvent parfois l'emmener trop loin. C'est toute la richesse, en fait, de la vie conjugale, hein, de la complémentarité entre l'homme d'entre l'homme et la femme. La femme, il faut qu'elle accepte qu'elle est vulnérable et que... Voilà, on n'est pas toute seule et que finalement, c'est beau de vivre cette interdépendance entre l'homme et la femme et l'homme notamment qui va apporter une certaine objectivité à la femme. Ça, c'est vraiment un point sur lequel Edith Stein insiste énormément parce que, on l'a déjà dit, les séances précédentes, la femme, elle se porte sur la personne, sur le sujet, qui est d'une grande richesse, mais il y a un risque qu'elle se perde dans la subjectivité, en fait. Et donc, l'importance de se soumettre à une certaine objectivité. On l'a dit, à la richesse qui est l'homme est beaucoup plus objectif. Et aussi pour la femme, toute seule, de se soumettre aux lois d'un objet. Qu'est-ce que c'est pour Edith Stein un objet? C'est par exemple un travail intellectuel ou un travail domestique ou un travail professionnel.
Quelque chose de concret.
Voilà, exactement. Par exemple, ça va être des contraintes matérielles des enfants avec un rythme scolaire, des repas à préparer, voilà, ou tout simplement un travail professionnel. Voilà, je suis attendue à telle heure, je dois rendre tel travail. Et donc ça, en fait, ça impose un rythme à ma vie, à ma journée. Ça cadre, en fait, ça cadre vraiment la vie de la femme. Alors que si certaines personnes, périodes de la vie, on voit si on est à la maison ou une période de retraite pour la femme, c'est un enjeu hein, de gérer le passage à la retraite, où on va être moins soumise à ses horaires objectifs, eh bien, il peut y avoir un risque finalement du coup d'être trop soumise à ses humeurs, à ses émotions. D'où vraiment l'intérêt de se donner à soi-même un rythme de vie quotidien avec des horaires chez soi. Et puis d'où, voilà, on l'a dit, hein, la belle complémentarité entre l'homme et la femme parce que l'homme aide la femme à cette objectivation. Il y avait vraiment cette tentation d'Ève dont on avait déjà parlé, hein, de se oui. passer de l'avis d'Adam, juste avant la chute. Voilà, on voit vraiment, c'est hyper beau, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre.
Et oui, c'est cette complémentarité dont vous nous avez déjà beaucoup parlé. Faut-il être nécessairement libre pour bien s'aimer ?
Oui. C'est certain, bien s'aimer nécessite une certaine liberté et c'est même complètement un cercle vertueux parce que à la fois on a besoin d'être libre pour bien s'aimer et à la fois bien s'aimer ça va aider à être de plus en plus libre et notamment dans le fait de se détacher de ce besoin d'admiration qui est vraiment viscéral pour la femme quoi. Et voilà, on l'a vu, ça passe par l'humilité et donc cette humilité elle nous conduit à la liberté. Voilà, elle va permettre de pas dépendre de notre image, d'être pleinement nous-mêmes. Finalement, c'est la liberté du regard sur soi et liberté aussi vis-à-vis du regard que les autres posent sur moi.
Et donc, c'est difficile. Hein.
Ouais, c'est difficile. Et puis, c'était voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les influenceuses. En fait, c'est vraiment terrible parce que avec ces likes et voilà, hein, on envoie un post sur Insta et puis on attend de voir combien de likes on va récolter. Et bah, là, on voit, on est complètement dans la dépendance du regard d'autrui, en fait. Est-ce que les autres aiment ce que je suis, ce que je donne, ce que je... Voilà. Et il y a vraiment un travail pour avoir une liberté d'indépendance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du regard d'autrui. Voilà, la femme, elle veut réussir, elle veut être parfaite, elle veut être performante. En fait, il y a plein d'exemples dans la vie de la femme. Elle veut être performante au travail. Si elle est catholique, elle veut être une bonne paroissienne. Elle veut prendre du temps pour elle. Maintenant, on a tellement d'injonctions. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, etc. Bon, voilà, on voudrait être parfaite, on voudrait être partout. Mmh. Et ce n'est pas réaliste. Donc, voilà, accepter notre imperfection et accepter vraiment de se libérer de ce diktat de la perfection. Et je pense qu'il y a vraiment un diktat hein, de la perfection qui est pas très bien compris. Et en fait, cette liberté, elle va s'accompagner en conséquence d'un équilibre intérieur. Il y a une belle image qu'on peut prendre, c'est l'image de l'encre. Cette image de l'encre, elle est très belle pour la femme. Voilà, pour toute femme, pour une femme qui connaît Dieu ou pas même. En fait, on voit l'encre, on imagine la mer agitée. Et voilà, l'encre qui est stable, qui est bien accrochée au fond. Donc voilà, qui est équilibrée intérieurement. Enfin, voilà, quelle que soit la mer au-dessus d'elle, finalement. Voilà, je sais qui je suis, je connais mes forces, mes faiblesses. J'essaie de savoir là où je veux aller. Et puis, voilà, pas après pas, je m'accueille et j'avance. Et je suis stable, en fait. C'est vraiment cette stabilité ouais. que la femme peut acquérir.
Et qui s'acquiert justement par la prière, par le fait d'avoir, oui. Comme vous disiez, des horaires réguliers, oui. voilà, des choses qui cadrent en fait.
Oui, oui, ouais. tout à fait. Et voilà, et en cultivant sa vie intérieure. Ça, c'est vraiment... C'est ça. En fait, vraiment... partir de sa vie intérieure profonde pour pouvoir un peu se dégager de tous les remous de la vie qui vont être là. Hein. Toujours, la vie ne se fait pas sans épreuves, sans remous. La mère, parfois, elle est calme et puis parfois, elle peut être très agitée. Mais voilà, plus on est centré dans sa vie intérieure, ancré dans sa vie intérieure, plus on va avoir cette stabilité, cette distance vis-à-vis de tout ce qui peut nous impacter, en fait. Et puis, du coup, vis-à-vis du regard sur nous, vis-à-vis du regard des autres.
Alors, je vous propose, Camille Certaine, de faire une petite pause musicale. Nous écoutons le concerto pour deux orchestres, des Vêpres pour l'Assomption de la Vierge Marie d'Antonio Vivaldi, interprété par le Concerto Italiano.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec Camille de Certaines pour mieux comprendre les enjeux de la femme dans son corps, dans son cœur, dans sa psychologie, c'est-à-dire sa tête. Un autre enjeu de la vocation de la femme réside dans sa physiologie, dans son corps. Comment cela se manifeste-t-il particulièrement ?
Ça se manifeste par son cycle féminin. Voilà, le cycle féminin, ça teinte profondément le quotidien de la femme. Et parfois, on peut le vivre de manière douloureuse, physiquement ou psychologiquement. On a plein d'exemples, hein, parce qu'il nous met à plat, parce qu'il est irrégulier, que voilà, pour certaines femmes, hein, il peut vraiment s'accompagner de réelles douleurs physiques, de fatigue. Ou pour certaines femmes, parce qu'on n'arrive pas à avoir cet enfant tant désiré, parce que notre cycle dysfonctionne. Voilà, il y a pas mal de cas comme ça. Il y a beaucoup de situations compliquées avec le cycle. Et il peut vraiment générer en nous incompréhension ou colère ou amertume. Voilà, souvent, on passe toutes par là à un moment de notre vie. Ouais. Et je crois que, voilà, lié à ça, le cycle rend la femme familière de la souffrance. Et cette familiarité, elle se développe dès les premières années de cycle chez les jeunes filles. Et il me semble que le cycle, en cela, il prépare la femme à la compassion auprès des plus petits, auprès des plus souffrants. C'est finalement une grande richesse de la femme, ce cœur ouvert, cette compassion. Et on peut se demander hein, si elle serait possible sans avoir connu soi-même la souffrance. Et je crois pas. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'il faut désirer souffrir. Et tant mieux pour celles qui ont un cycle facile. Mais voilà, en tant que monitrice en régulation naturelle des naissances, mon rôle, c'est d'aider les femmes dans la meilleure compréhension de leur cycle pour qu'elles puissent avoir pour se connaître et puis avoir une maternité responsable. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des cycles, des femmes là-dedans. Et il me semble en fait qu'aucune femme n'a un cycle parfait toute sa vie. Et que cette familiarité avec la souffrance, c'est vraiment une force et une richesse pour la femme. J'ai commencé par la souffrance parce que souvent, je me rends compte que dès qu'on parle de cycle entre femmes, bah, c'est quand même un sujet qui revient,
oui,
qui revient
oui,
bien souvent.
Ça, malheureusement. Et pourtant, voilà, il n'y a pas que la souffrance qui est liée au cycle féminin.
Oui, voilà, évidemment, ce n'est pas le seul enjeu du cycle. et puis, en plus, c'est important de le rappeler, hein, le cycle de la femme, ce n'est pas toute la femme. Voilà, on n'est pas réduite à notre cycle, on ne l'a pas toute notre vie. On peut le perdre hein, par la maladie et puis ça arrêtera naturellement à la ménopause. Voilà, une femme qui n'a pas ou qui n'a plus de cycle, elle n'est pas moins femme. Mais malgré tout, il a une importance dans la vie de la femme un certain nombre d'années. Et puis, voilà, il nous dit quelque chose de notre personne de femme. Je trouve que c'est vraiment un témoin pour la femme. En fait, il a du sens, notre cycle. On voit déjà, hein, il sculpte le corps de la femme. Une femme, elle n'a pas la même féminité au long des âges de la vie de la femme en raison, en fait, du cycle. Hein, un enfant, la puberté, la maturité, voilà, on voit que le corps de la femme évolue. Et le cycle évolue aussi selon différentes phases hormonales. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte que chaque phase est porteuse de sens. On peut arriver à reconnaître ces différentes phases du cycle et on peut comprendre l'impact sur notre corps, sur nos émotions, sur notre énergie. Voilà, et si on ne connaît pas, ça peut être très déconcertant, alors qu'en fait, c'est hyper intéressant pour la femme.
Est-ce que vous pouvez nous préciser ce point-là, Camille de Certaines ?
En fait, le cycle nous prédispose à une grande variété d'aptitudes relationnelles. Finalement, la femme, elle a une fécondité à vivre qui est liée au cycle, qui est liée au fait d'être une femme. Alors, spontanément, quand on interroge une femme sur qu'est-ce que c'est que la fécondité, elle va dire bah, la fécondité, c'est avoir un enfant. Voilà, on pense vraiment à la fécondité naturelle. Mais la fécondité, en fait, qu'est-ce que c'est la fécondité ? C'est porter du fruit. Donc, c'est vraiment lié au fait de se donner. C'est beaucoup plus large que uniquement la fécondité naturelle. Et donc, notre cycle, il est éminemment fait pour la vie, mais la vie au sens large. La femme, le cycle, c'est vraiment un soutien pour que la femme se donne. En fait, c'est un soutien au service de la fécondité de la femme, au service de sa capacité à aimer.
Mmh. Et comme... pardon de vous interrompre, mais c'est un soutien et puis c'est aussi peut-être un petit rappel.
Oui, tout à fait.
De cette vocation au don.
Exactement. C'est une très bonne remarque. C'est un rappel, en fait, que la femme est faite pour la vie, elle est faite pour aimer, elle est faite pour se donner. Et donc, voilà, on a de multiples façons de se donner. On se donne sous différentes modalités et notre cycle est là pour le rappeler. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail physiologique du cycle. Pour ça, il y a de très bons ouvrages qu'on peut recommander, ceux de Cécile de Villancourt, par exemple, « Trésor de femme », ou alors même pour les jeunes filles, au moment de la puberté, « Ton corps, un trésor ». Il y a aussi les excellents livres de Gabrielle Viala, notamment « Bien vivre le cycle féminin ». Voilà, on va pas détailler
plein
ça.
Plein de petites lectures, oui, pour compléter. Oui. Camille Certaine, regardons maintenant chaque phase du cycle féminin afin de bien comprendre les enjeux.
Oui, on peut comparer le cycle aux quatre éléments. Donc l'air, l'eau, la terre et le feu. On va commencer par le premier élément, l'air, en fait, qu'on peut comparer à la phase pré-ovulatoire. C'est vraiment le début du cycle, les hormones se lancent doucement. Et donc c'est un temps d'attente, c'est un temps qui est facile, qui est léger, un peu voilà, comme l'air. Pendant ce temps-là, la femme, elle est infertile. Elle ne sait pas combien de temps ça va durer, en fait. Elle ne sait pas quand va commencer la période féconde. Voilà, donc ça, c'est une phase qui peut être variable d'un cycle à un autre ou d'une femme à un autre, mais on compare à l'air parce que voilà, c'est... Psychologiquement, c'est léger, voilà, c'est ouais, facile. C'est
Alors, quelle est la phase suivante ?
Alors, la phase suivante, donc, c'est la période féconde, qu'on compare à l'eau, parce que l'eau, en fait, ça caractérise la glaire cervicale, cette substance qui est produite dans le col de l'utérus. Et en fait, cervix, ça veut dire col en latin, c'est pour ça qu'on appelle ça la glaire cervicale. Elle est produite sous l'action des œstrogènes, et c'est ça qui rend la femme féconde. Et donc, ça va aller crescendo jusqu'à l'ovulation. Et alors, en fait, pendant cette période, comment est la femme ? Eh bien, la femme, elle est pleine d'entrain, elle est ouverte, elle est vivante, elle est énergique, elle est vraiment dans la communication, dans la relation. Par exemple, concrètement, la mise en route du travail intellectuel va être plus facile. Ou alors, pour des femmes qui font du sport, eh bien, les performances sportives vont être supérieures. En fait, voilà, on peut noter hein, sur le chrono. Voilà, c'est un temps aussi où la femme se sent bien dans son corps, elle se sent belle, elle se sent confiante. C'est la période où quand on se regarde devant le miroir le matin, on est OK avec nous.
On se dit, ça y est, je suis belle.
Bon. C'est ça, exactement. voilà, c'est intéressant en fait de le savoir parce que je prenais l'exemple des performances sportives. Si on a une ado qui fait du sport et qui... voilà, là, elle est hyper contente de son chrono sportif. Et puis, le mois d'après, eh ben, la compétition ne tombe pas forcément pendant cette période féconde. Elle ne va pas forcément complètement se décourager. Ça peut aussi être lié à notre capacité physique qui, elle-même, est liée à notre cycle.
Et ça permet d'accepter plus facilement peut-être l'échec ou
oui,
en tout cas une moins bonne performance.
Ouais,
ouais. Ouais. La troisième phase, donc, vous nous avez dit qu'elle commence finalement après l'ovulation.
Voilà. Après le sommet de l'ovulation vient la période post-ovulatoire. Et cette période, on peut la comparer à la Terre. En fait, si on regarde un peu les courbes hormonales, l'ovulation, ça correspond à la cassure des œstrogènes qui produisait la glaire cervicale. Et à ce moment-là, il y a la forte augmentation de la progestérone. Donc l'eau se retire. La femme a une sensation de sécheresse qui va durer jusqu'aux règles. Ça dure à peu près 2 semaines, cette période, voilà, due aux œstrogènes. C'est pour ça qu'on compare à la Terre. Il y a vraiment un changement, une rupture dans l'humeur. Alors, certaines femmes ne vont pas forcément le sentir. Ça va être assez stable. Et puis, il y a des femmes chez qui ça peut être assez déstabilisant parce que notre humeur, elle devient plus instable, elle devient plus pessimiste. Et la femme, elle a un plus grand désir de solitude, en fait. Elle a moins d'énergie, elle est plus fatigable. En fait, notre énergie, elle est plus tournée vers l'intériorité. Là, on est moins dans l'action, on est plus dans l'écoute, on est plus dans la réflexion. On a plus de recul, en fait. Mais du coup, on est finalement aussi peut-être plus profonde. Voilà. Et donc, c'est peut-être plus difficile moralement pour la femme. On pense souvent au syndrome prémenstruel qui peut être un peu déstabilisant les derniers jours du cycle avant les règles. Mais voilà, c'est quand même une période riche pour la femme où il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de profondeur pour la femme.
Et puis après, il arrive, on arrive à la dernière phase du cycle.
Oui, la dernière phase du cycle, ce sont les menstruations ou les règles qu'on peut comparer à l'élément feu. Voilà, on a le détachement de l'endomètre et puis la femme saigne quelques jours par mois. En fait, tout ce qui s'était passé physiologiquement, tout ce qui s'était préparé pendant le cycle, eh bien, ça disparaît. Alors, ça peut, pour beaucoup de femmes, s'accompagner de douleurs physiques, physiologiques. voilà, on peut être un peu irritable, on peut être assez fatigué. Donc, c'est dans la mesure du possible, c'est important de privilégier des activités reposantes. Parce que voilà, on est moins en forme hein, concrètement. L'humeur peut être moins là aussi. On est plus maussable, plus susceptible. On recherche la bienveillance, la compréhension auprès de nos proches. Donc ça peut être une période plus délicate. Mais en même temps, c'est important de rappeler que comme les quatre éléments en fait, sont nécessaires à la vie, à l'univers, eh bien, toutes les phases du cycle sont nécessaires au cycle et vont contribuer à rendre le cycle fécond en faveur de la vie. Donc voilà, il n'y a pas de période à mépriser ou parce qu'elle serait plus difficile à vivre. Voilà, vraiment cet enchaînement des quatre périodes à accueillir et à essayer de faire fructifier dans notre vie.
Vous qui faites des parcours pour les jeunes filles, vous leur expliquez, j'imagine, ces oui. quatre étapes. Oui. Et puis, vous leur donnez peut-être des astuces pour les vivre mieux.
Oui, des astuces, notamment dans l'agenda. En fait, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est un peu tout le travail de l'unité de vie. Essayer de se dire, peut-être que... Je sais que quand je vais avoir mes règles, je ne vais pas blinder mon agenda parce que je sais que j'aurai moins de ressources physiques et donc me prendre des temps de pause ou alors me dire, en fait, se connaître, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me redonne de la joie, moi, par exemple, est-ce que c'est de passer un bon moment avec une amie, est-ce que c'est d'écouter de la musique, est-ce que c'est d'aller faire du sport, et bien essayer de se programmer ces moments de ressources dans les périodes où je sais que mon cycle sera moins un soutien pour mon moral, pour mon énergie. Je me connais, donc je vais essayer de programmer ces moments de ressources pour retrouver cette joie, cette énergie et voilà, faire de mon cycle un allié, en fait.
Oui, c'est ça, un atout. Oui.
Et donc, finalement, l'intégrer, voilà, l'intégrer dans mon... Dans ma vie quotidienne, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, finalement, la femme fait à chaque cycle l'expérience de sa finitude et puis d'un renouvellement.
Oui, ouais, c'est vraiment... on est vraiment cyclique. Mais c'est beau, hein, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des choses qui touchent à leur fin. Et en fait, la femme, elle vit dans son cycle que ça redémarre. Voilà, qu'il y a quelque chose qui va repartir. Et c'est ça ce qui donne, je pense, la grande force de la femme, c'est que la femme, elle sait repartir, elle sait rebondir, elle a cette capacité immense à se relever, à aller de l'avant parce qu'elle sait, parce qu'elle le vit dans son corps, que la vie reprend ses droits sur la souffrance. Il y a vraiment à la fois cette alliance un peu paradoxale, hein, mais de vulnérabilité, de force qui fait finalement l'immense force intérieure de la femme.
Ouais, une forme de résilience finalement.
Oui, oui.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un dernier mot pour conclure ?
Oui, alors conclure et puis d'abord aussi parler de rappeler en fait que le cycle peut passer inaperçu dans la vie de la femme.
Ah oui.
Si elle ne s'intéresse pas à cette question ou si par exemple si elle est sous contraception hormonale qui viendrait stopper son cycle, en fait elle peut ne pas réaliser ces différentes étapes. Or voilà, vraiment... le cycle peut être un soutien pour découvrir notre mission de femme, voilà, et comme on l'a dit, hein, vraiment pour vivre de manière unifiée, hein, avec ses aspirations, avec son cœur, avec sa psychologie et aussi avec son corps. Voilà, comme on l'a dit, notamment dans ce qu'on peut donner comme petit tuyau pour les jeunes filles. Voilà, vraiment le corps, il est partie prenante de la vie de la femme, donc ne pas oublier notre corps et notre physiologie.
Ouais.
J'aime beaucoup le livre de Claire de Saint-Lager, qui s'appelle La voix de l'amoureuse, et elle nous parle dans ce livre de la fécondité et de la mission. Et en fait, elle nous dit que en fait, chaque femme doit trouver sa mission, doit trouver la direction à donner à notre vie. Et elle souligne vraiment que ça inclut tout ce qui fait partie de notre vie. Ça inclut notre état de vie, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit maman ou non, qu'on soit grand-mère. Ça inclut notre métier, nos activités, nos relations. Parce que justement, notre mission, elle se vit avec tout notre être. Elle écrit, hein, c'est beau, elle dit, quand on se donne, c'est soi tout entier qu'on donne. Et donc, voilà, ça montre vraiment l'importance de prendre en compte toute notre personne, notre tête, notre cœur et notre corps. Et je trouve que les sociétés occidentales sont très intellectualisées.
Ah oui.
On est très coupé de notre corps, en fait. Et notamment à la différence, hein, des pays d'Afrique ou d'Asie, où les femmes sont beaucoup plus à l'aise. Il y a un rapport à la nature et au corps qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Et donc, finalement, les femmes, elles ont un lien beaucoup plus fort avec leur corps. Alors que parfois, quand on apprend à des jeunes femmes à observer leur cycle, ça leur semble... On a l'impression de leur parler chinois, alors finalement, c'est elle-même. Voilà, on voit vraiment dans la femme occidentale, elle est très dans sa tête et elle est moins dans son corps. Or, il y a une pédagogie du cycle que je vois, hein, quand j'accompagne des femmes, c'est très beau. Hein. Petit à petit, voilà, elles vont s'ouvrir à ça. Et il y a une grande joie, en fait, de se connaître et de
se comprendre.
Oui, de se comprendre, exactement, de décrypter ce mystère. C'est un peu le même principe que la méthode Vitose. Où en fait, on se dit, quand je fais quelque chose, eh ben, je le fais en conscience.
Oui.
Donc, quand je touche, est-ce que j'ai conscience de ce que je touche, de ce que je ressens eh ben, c'est un peu la même chose, en fait, connaître son corps. Et finalement, si j'arrive à habiter toute ma personne, eh ben, je vais plus pouvoir me donner moi tout entière. Et donc là, voilà, je vais vraiment pouvoir plus trouver ma mission. Et Claire de Sorlager, elle nous dit, hein, le marqueur de la mission, c'est la joie. C'est vraiment important. La manière dont je vis mes relations, mes engagements, mon métier, tout ça, ça me donne des indicateurs. Est-ce que je suis bien dans ma mission ou pas? Est-ce que je dois réajuster certaines choses ou pas? Parce qu'évidemment, notre mission, notre fécondité, elle est pas figée. On voit bien, ça évolue selon les étapes de la vie, les phases, notre situation de vie. Ça va évoluer, ça va s'approfondir, ça peut prendre différents chemins. Mais c'est vraiment la joie toujours qui va me dire est-ce que je suis bien dans ma mission.
C'est le marqueur.
C'est le marqueur.
C'est le marqueur. Ouais. Merci beaucoup Camille de Certaines de nous avoir bien expliqué toutes ces différentes phases de la vie de la femme pour qu'elle apprenne à faire l'unité en fait entre son corps, son cœur et son esprit. Merci.
Avec joie.